Bonjour, je m'appelle Frédéric Gagnon et je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Vous écoutez le balado de la chaire, le balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Le 11 novembre, Elisabeth Vallet, directrice scientifique et directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire, a présenté la midi-conférence « La tentation du mur » dans le cadre des Journées d'études allemandes. Elle nous a décrit les impacts des murs frontaliers à travers le monde 30 ans après la chute du mur de Berlin. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bienvenue à la conférence d'ouverture qui donne le coup d'envoi des trois journées académiques allemandes. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter une collègue de renommée, bien connue dans les médias, experte dans le domaine des questions frontalières et la politique américaine. Ses recherches ont été publiées dans plusieurs ouvrages et revues scientifiques et reprises par la presse, entre autres dans le New York Times, Times of India, Asahi Shimbun, Washington Post et Le Monde, entre autres. Elisabeth Vallet est directrice scientifique et professeure associée à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Elle dirige l'antenne québécoise du programme Borders and Globalization basé à l'Université de Victoria et enseigne la géopolitique à l'UQAM. Son groupe de recherche organise depuis 2009 la conférence biennale de Montréal sur les frontières et le mur. Chroniqueuse pour Le Devoir et Radio-Canada, elle a reçu le prix 2017 Richard Morrill Outreach Award de l'Association des géographes américains. Madame Vallet, nous sommes très touchés de pouvoir compter sur vous pour le coup d'envoi de nos trois journées académiques allemandes. Un grand merci de la part du comité organisateur. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation, vraiment. C'est un honneur d'être là. Donc, je vais dresser un panorama des murs après le mur. Et évidemment, lorsque, en 1987, Ronald Reagan prononce les mots « Monsieur Gorbatchev, faites tomber ce mur », ça paraît être encore de la science-fiction pour beaucoup, jusqu'au moment où le mur tombe effectivement, il y a de cela 30 ans. Avec la chute du mur, le monde a changé. Et c'est un changement paradigmatique tel qu'on va repenser complètement le monde et les frontières. Repenser le monde et les frontières, repenser la manière dont on envisage les relations internationales, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin des territoires, la fin de l'État-nation, la fin de l'autorité. On a tout un corpus en sciences politiques qui imagine ce monde qui va être un monde complètement redéfini qui transcenderait les frontières au point où on les déclare physiquement obsolète, et c'est ce que vous voyez sur l'image du haut, c'est ces postes frontières en plein cœur de l'Union européenne qui sont devenus des abris à hirondelles. Et à ce moment-là, le monde devient global, clairement. Le monde devient global, on adopte des traités qui ont une vision supranationale, la Cour pénale internationale étant probablement l'élément le plus abouti de cette évolution, mais aussi tous ces mouvements de mondialisation, de liberté, de circulation, des capitaux, des marchandises et éventuellement, imagine-t-on, des personnes. Mais voilà, lorsque l'on parle du mur, la première chose que l'on constate et qui est très présente dans le corpus scientifique des géographes, un peu moins chez les politologues, mais qui est très nette à partir du moment où se clôt le XXe siècle, c'est que les frontières demeurent. Les frontières n'ont pas disparu. Les frontières demeurent, y compris dans des zones que l'on n'avait pas imaginées, avec évidemment le changement climatique, la glace fond, et on découvre soudain qu'il y a peut-être des enjeux frontaliers, un peu dans le style très XIXe siècle, des enjeux frontaliers jusqu'en Arctique. Et l'image que vous voyez à gauche est celle de l'île de Hans, ce petit caillou que se disputent les Québécois et les Danois, les uns amenant une caisse de schnapps danois et plantant le drapeau danois, et les Canadiens arrivant après, y substituant une caisse de whisky canadien et érigeant le drapeau canadien. C'est vraiment les conflits à la canadienne. Ces frontières sont présentes, ont une incidence sur la manière dont on va penser notamment la circulation dans le Nord. La deuxième tendance, à l'issue de la chute du mur et 10 ans après, qui devient de plus en plus marqué, c'est que les frontières sont plus épaisses, qu'elles sont mobiles et qu'elles sont internalisées. La frontière, ça n'est plus la ligne frontalière, ça n'est plus la seule ligne de démarcation. Lorsque l'on est, par exemple, aux États-Unis, cette bande orange qui borde l'intégralité des frontières sur 100 miles, 160 km, est nommée par l'American Civil Liberty Union, la Constitution Free Zone. Et dans cette zone-là, on ne dispose pas des mêmes droits que sur le reste du territoire américain. On est dans la zone comme si on était sur la ligne frontalière. En d'autres termes, en plein cœur de Burlington, Vermont, lorsque ce week-end vous irez faire du magasinage, vous pouvez être arrêté par un agent frontalier qui peut vous demander votre passeport, qui peut vous reconduire à la frontière, mais qui peut également exiger d'avoir accès à votre téléphone ou à votre ordinateur, comme il peut le faire sur la zone frontalière, et donc vérifier votre statut, mais également vos intentions. Donc, cette frontière est beaucoup plus épaisse, elle est mobile, elle est internalisée, mais elle est aussi externalisée. Et donc, cette frontière qui était très démarquée par le mur de Berlin jusqu'en 1989 devient tout d'un coup une zone qui peut aller très loin. Et la carte que vous voyez ici, c'est la carte de la projection de la frontière par l'Union européenne, très loin de son territoire, jusqu'en plein cœur du Sahel. Donc, c'est aussi loin qu'elle a pu la repousser. Et c'est là que vont s'effectuer des contrôles migratoires, non pas par l'Union européenne, mais en son nom, à son bénéfice et financés par elle. La troisième tendance que l'on découvre particulièrement 10 ans après la chute du mur, qui se va devenir marquée et qui est particulièrement marquée aujourd'hui, c'est que les frontières étaient souples dans une certaine mesure et pendant assez longtemps. Les images que vous voyez là sont en haut à gauche, la frontière entre la Hollande et la Belgique, qui passe littéralement à travers une maison. La cuisine est en Hollande et le reste de la maison est en Belgique. Ou en bas, et c'est un enjeu que l'on découvre particulièrement, on découvre l'acuité en ce moment, c'est en Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, avec l'impact que l'on sait du Brexit et donc du besoin de nouveau délimiter cette frontière. Et puis à droite, à 1h30 d'ici, c'est la frontière avec le Vermont. C'est Stansted et la bibliothèque de Stansted est construite littéralement sur la frontière à dessein avec une partie donc côté américain, une partie côté canadien. Il y a également un théâtre avec la scène d'un côté et l'audience de l'autre. L'idée, c'était vraiment de montrer à quel point on est dans des espaces de culture partagée. Mais ce sont aussi des espaces qui ont servi dans la période récente dans la restauration de la frontière. On l'a vu pendant la guerre du Vietnam, les objecteurs de conscience qui fuyaient le service militaire au Vietnam venaient au Canada. Certains d'entre eux ont pu rencontrer leur famille physiquement dans cette bibliothèque-là. Et on l'a vu encore plus récemment avec des familles iraniennes où les familles avaient obtenu des statuts de réfugiés dans des pays différents, ne pouvaient pas forcément franchir la frontière. Donc c'était un moyen de transcender la frontière qui leur avait été surimposée. Mais ces frontières souples sont en pleine mutation et deviennent extrêmement dures. Ce que vous voyez en haut, c'est la frontière avec l'Arizona et la mutation d'une frontière à gauche qui était une barrière à véhicules, donc des croisillons assez bas qui devaient simplement empêcher des voitures de passer et qui vient d'être transformée en ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire des panneaux de métal assez élevés qui ont pour but d'empêcher littéralement le franchissement du passage. Et ce que vous voyez en bas est une des dernières à avoir été construite en Ukraine à la frontière avec la Russie. L'Ukraine craignant par-dessus tout son voisin russe, c'est de toute évidence. Donc, de toute évidence, 30 ans après la chute du mur de Berlin, on construit encore des murs. C'est celui entre la Corée du Nord et la Chine. Et on définit comme mur, peut-être dans cette recherche-là, les structures qui ont des fondations maçonnées, qui sont inamovibles, qui ont pour objectif d'empêcher de passer, ce qu'était exactement le mur de Berlin, même si les flux sont différents, et qui ne peut certainement pas être replié en une soirée et redéplié ailleurs, comme le serait un rouleau de barbelés. Ça, c'est la double barrière à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Évidemment, un des murs les plus emblématiques, celui qui est le plus cité, celui aussi qui donne lieu au plus d'expérimentation, à la frontière avec la Cisjordanie, entre l'Inde et le Bangladesh, à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, un des derniers à avoir été construit tout le long de la frontière syrienne par la Turquie, entre Ceuta, Melilla, qui sont deux enclaves espagnoles, et le Maroc, la frontière avec la Hongrie, ici entre le Pérou et l'Équateur, entre la Somalie et le Kenya, entre la Malaisie et la Thaïlande, et entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, il y a une véritable prolifération des murs à travers le monde, mais la nouveauté, l'élément le plus important, celui peut-être qu'on doit le plus souligner, c'est que, contrairement à ce qui se passait pendant la construction du mur de Berlin et pendant toute la période de la guerre froide, ici, ce sont les démocraties qui n'exmurent pas, mais qui s'emmurent elles-mêmes. Ce que vous voyez ici est l'image de la frontière entre du mur mexicano-américain à sa pointe la plus occidentale, entre Tijuana et San Diego, et le mur, la barrière, s'enfonce dans la mer pour éviter que les gens ne puissent la contourner à la nage. Mais on va retrouver le même phénomène en Inde. L'Inde est un des États qui s'emmure le plus aujourd'hui en termes de kilométrage de mur et qui est en train, tout le tour du Bangladesh, de parachever un mur qui littéralement exmure le Bangladesh en dehors de la péninsule. Le Bangladesh, qui est un État qui est pratiquement pour moitié au niveau de la mer, qui est extrêmement pauvre, extrêmement peuplé, est extrêmement soumis non seulement aux moussons, mais aux crues générées par les moussons qui vont être démultipliées avec le changement climatique. Donc l'impact est réel. Bien évidemment, on va retrouver la même logique entre Israël et la Cisjordanie, Israël et Gaza, Israël et l'Égypte, Israël et la Syrie, Israël et le Liban. Donc c'est un des États qui, là aussi, à l'instar de l'Inde, s'emmure complètement avec des infrastructures qui sont particulièrement notables, mais surtout le dernier gros mouvement, celui qu'on n'aurait jamais pensé revoir réapparaître 30 ans après la chute du mur, c'est l'emmurement, la barriérisation d'un certain nombre d'États en Europe occidentale et surtout en Europe orientale. Donc, on a vraiment un phénomène qui, à partir de 2015, a été particulièrement accentué. Alors, bien sûr, me direz-vous, les murs ne sont pas nouveaux. Il y en a toujours eu. Et vous auriez raison, le mur d'Adrien en Écosse, le mur d'Antonin, le fossatum africain en Afrique. On pourrait parler aussi de la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille, ce sont des Grandes Murailles de Chine, d'ailleurs, vu la période sur laquelle c'est construit et le manque parfois de continuité de cet artefact qui n'a finalement jamais servi qu'au tourisme, parce que quand il a été parachevé, les invasions que l'on craignait étaient à tout fait utiles, avaient disparu. Et le mur d'Adrien avait pour objectif, oui, d'empêcher de passer, mais surtout de canaliser. C'est souvent ça la fonction de la frontière. La frontière est une interface entre deux pays, entre deux souverainetés, et les points d'entrée permettent de comptabiliser qui rentre et qui sort, éventuellement de percevoir un impôt ou un péage, mais ça a une fonction de canalisation, ce qui n'est pas le cas ici. Et on le voit particulièrement, si vous n'avez pas lu Astérix chez les Pictes, je vous le recommande, parce qu'il y a tout un discours sur le mur, sur les réfugiés, sur le droit d'asile qui est très important. Mais là, en l'occurrence, ce que l'on explique simplement au Pict qui vient livrer son saumon, c'est qu'il doit passer par la porte, parce que c'est l'endroit où, justement, on va pouvoir prélever l'impôt le cas échéant. Ce qui nous amène à la question suivante. À quoi, finalement, à quoi sert le mur ? Quelle est la fonction d'un mur ? Et là, en décomposant les discours gouvernementaux, donc il y a aussi une limite à la démarche, mais on se rend compte qu'à l'origine, beaucoup de murs avaient pour but d'imposer la paix, d'établir une frontière de facto, de se dire on s'entend qu'on ne s'entend pas, donc de figer un conflit. C'est le cas entre Israël et la Cisjordanie, parce que c'est un moyen peut-être de définir une frontière qui est là pour durer et que, advenant l'avènement de deux États, c'est probablement là que le tracé se finirait. Les choses ont beaucoup évolué depuis, mais dans l'idée initiale, c'était probablement un des arguments qui pouvait être employé. Entre l'Inde et le Pakistan, entre les deux Chypres, entre les deux Corées, on s'entend qu'on ne s'entend pas, on fige un conflit en l'état. Puis on va trouver tout ce qui est lié au terrorisme et au trafic, tout ce qui peut porter atteinte à une forme de sécurité nationale. Et on va retrouver là-dedans les barrières qui sont construites dans la vallée du Fergana, là où il y a du trafic, entre la Malaisie et la Thaïlande, par exemple, pour des raisons liées au terrorisme. Donc on va trouver cette justification de manière récurrente, mais moindre. Aujourd'hui, la très grande majorité des murs ont pour vocation d'empêcher l'entrée, et particulièrement l'entrée de ce qui est appelé l'immigration illégale, l'immigration non documentée. Et c'est probablement là, c'est l'accentuation de ces murs-là qui conduit à la courbe que vous voyez, c'est-à-dire une courbe qui a en fait assez peu décliné à partir de 1990, qui a légèrement augmenté et qui prend son essor quelques mois avant septembre 2001. Et continue de monter régulièrement jusqu'à atteindre des sommets inégalés jusqu'à présent. On est à plus de 70 murs dans le monde, confirmés dans le monde aujourd'hui. En fait, dans notre base de données, on en a pratiquement une centaine, mais les 70 sont confirmés par trois sources différentes. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on ne peut pas aller à la frontière, aux frontières iraniennes, par exemple, de le documenter. Mais donc on en a 70 qui sont construits à travers le monde et qui sont surtout construits à l'échelle du monde, tous les continents sont impactés, à l'exclusion de l'Antarctique et de l'Océanie. Mais tous les continents sont marqués par cette omniprésence du mur, cette fermeture et cet encastellement d'États qui ont choisi de surligner leurs frontières de manière dure. Le point culminant étant, bien entendu, vous voyez l'accélération. Donc c'est une vidéo qu'on a réalisée avec le magazine Géo. Et on voit petit à petit l'accélération de la construction. Et ça culmine particulièrement en 2015 avec les constructions en Europe. Il y a plusieurs impacts à ça. Le premier impact de l'érection d'un mur, de la même manière qu'on l'avait vu dans le cas de l'érection du mur de Berlin, c'est l'impact que ça va avoir sur les zones frontalières. On peut parler longuement du fait que lorsque l'on traverse la frontière pour se rendre au Vermont, notamment au point d'entrée de Saint-Armand, si vous continuez sur la route à droite, le premier garage est un garage Tremblay aux États-Unis. Donc il y a une très grande proximité parce qu'il y a eu une habitation commune de part et d'autre de la frontière. Nos collègues à Burlington nous disent souvent qu'ils regardent le hockey sur les chaînes canadiennes parce qu'on parle des clubs de hockey qui les intéressent. Donc vraiment, leur regard est tourné vers nous. Et donc, on est dans une zone frontalière qui est relativement intégrée. C'est le cas ailleurs. Et par exemple, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une image d'une femme qui patrouille la frontière indo-bangladaise parce que certaines personnes se sont retrouvées avec la construction du mur, parce qu'un mur, c'est un acte unilatéral, ça n'est pas un accord frontalier. Donc, qui est construit à l'intérieur de l'État constructeur et parfois va générer des enclaves. Et donc, on se retrouve avec des gens qui doivent chaque jour franchir le mur pour aller travailler de l'autre côté, ce qui explique ce type de surveillance. On a bien entendu beaucoup entendu parler des enclaves générées par le mur en Cisjordanie, où on va littéralement emmurer des petits villages et ne laisser qu'une petite porte d'entrée, ou alors encore les paysans palestiniens qui doivent avoir des permis pour aller franchir les portes et accéder à leur champ. Souvent, le permis n'est donné qu'à l'homme le plus vieux de la famille. Donc là aussi, il y a d'autres éléments qui vont avec le mur. Et puis, on va trouver, comme vous le voyez, en bas à gauche et à droite, l'impact qu'a ce mur sur les zones frontalières à la frontière américano-mexicaine, avec à droite des familles qui sont séparées. On a beaucoup parlé de la séparation des familles à la frontière et de l'internement dissocié des enfants et des parents. Mais il y a aussi des parents qui se retrouvent de l'autre côté, qui sont déportés de l'autre côté et qui ne peuvent parler à leurs enfants qu'à travers la barrière existante. Et puis, à gauche, c'est une des réalités, alors qu'on se parle, qui est en train de se dérouler, alors que l'administration Trump est en train de construire un mur le long du Rio Grande. Il ne peut pas le construire, évidemment, sur les berges, qui sont meubles, qui sont mouvantes. Donc, ils sont obligés de le construire un petit peu à l'intérieur des terres, laissant entre le Rio Grande, frontière internationale avec le Mexique, et le mur, des Américains qui sont isolés aux États-Unis, mais pas tout à fait aux États-Unis, et qui ont parfois simplement une porte dans le mur pour accéder à leur maison et un code qu'ils doivent taper pour pouvoir rentrer. Donc ces zones frontalières fracturées, on les retrouve à peu près de partout là où il y a des murs. Le deuxième impact est un impact sur l'économie frontalière. Lorsqu'on déstructure une zone culturellement intégrée, on déstructure également l'économie. On voit l'impact aujourd'hui des mesures migratoires adoptées par le gouvernement américain sur l'économie, très loin de la frontière, sur l'économie laitière dans le nord des États-Unis. Mais on le voit particulièrement dans le sud, là où beaucoup de gens étaient employés, certes de manière non documentée, mais personne d'autre ne voulait remplir ces emplois-là. Donc, en Californie particulièrement, le fait de mettre un terme ou de multiplier les arrestations a eu pour conséquence de pousser à la robotisation un certain nombre de fermes qui avaient les moyens et de pousser à la banqueroute celles qui n'ont pas la capacité de faire ce genre de choses. Donc, l'économie frontalière est impactée également simplement parce que les gens vont hésiter à franchir la frontière pour aller acheter quelque chose de l'autre côté de la ligne. Mais ça a aussi un impact sur la croissance de l'économie illégale, de l'économie souterraine. Et ce qui est, c'est mon collègue de Ciudad Juárez, Rodolfo Salas, qui a documenté le fait que les migrants font de plus en plus appel à un passeur pour pouvoir franchir la frontière et que ça leur coûte, et ils sont prêts à payer, de plus en plus cher. Et le durcissement de la frontière, l'emmurement de la frontière a une conséquence, c'est d'amener les crimes organisés à la frontière parce qu'il y a de l'argent à faire et très vite, les mafias vont y voir leur intérêt. Donc ça va amener le crime organisé à la frontière et en fait tous les flux que l'on pouvait visualiser et contrôlés, plus ou moins, vont devenir tellement souterrains que ça va devenir de plus en plus difficile à contrôler et de plus en plus problématique. Le troisième impact de la construction des murs est l'impact sur l'environnement. Et il est significatif. Là encore, alors qu'on se parle, dans Organ Pipe National Monument, qui est un parc national protégé en Arizona, où vous savez, on a ces cactus qui ressemblent à des hommes. Et je tiens à dire que je mime le cactus. Donc, ces cactus sont parfois vieux de plus de 200 ans, pour certains. Ils sont abattus aujourd'hui au mépris de toute protection légale, parce que le gouvernement a la possibilité, pour des raisons de sécurité nationale, de lever l'application d'un certain nombre de lois. Et pour pouvoir fabriquer le ciment qui va permettre de construire le mur à l'heure où on se parle aujourd'hui, il y a un certain nombre de nappes phréatiques fossiles, donc des nappes qui ne se renouvellent pas, mais qui sont essentielles à la vie du désert, qui sont aujourd'hui vidées par les entreprises qui sont en train de cimenter la frontière. Donc l'impact est réel, il est étudié beaucoup évidemment aux États-Unis, mais on en trouve aussi des analyses qui sont faites par exemple sur l'impact du mur au Cachemire. Et en fait, l'impact du mur au Cachemire est que lorsque l'on met des barrières, on empêche de gros prédateurs de passer. Ceux-ci vont choisir d'autres routes. Et il se trouve que ces routes sont aussi les routes où sont les humains. Donc on a vu une augmentation des attaques, notamment d'ours noirs et de léopards sur les humains dans les régions qui n'étaient pas emmurées. L'impact va être aussi sur les écosystèmes. Le petit Oslo que vous voyez en haut à gauche était en voie de disparition. Aujourd'hui, il est pratiquement éteint en raison de l'existence du mur, parce qu'il ne peut pas franchir ce mur et que l'espèce n'arrive pas à s'adapter au fait que ces flux ne puissent plus fonctionner. On a également une petite chouette en Arizona qui vole à 1,50 m du sol. Le mur est beaucoup plus haut et en fait, elle ne peut pas franchir ce mur. Donc là aussi, ça a un impact sur cette population qui ne parvient pas à s'adapter à l'absence de franchissement. Ce qui est intéressant, c'est que ces impacts-là à long terme peuvent être déterminants. Et il existe une étude de l'Université de Pékin qui date de 2003 qui a documenté de part et d'autre de la Grande Muraille de Chine l'évolution de la flore et de la faune. Et il y a effectivement une évolution génétique dissociée. Mais ça, c'est surtout une longue période et lorsque les écosystèmes ont l'opportunité de s'adapter, ce qui est probablement moins le cas en période de changement climatique. Alors, me direz-vous, avec tout ça, les murs fonctionnent-ils ? Est-ce que l'investissement, le coût, apporte un quelconque bénéfice ? Et vous remarquerez que sur l'image, j'ai choisi délibérément de mettre l'image de la ligne Maginot. La première chose, c'est qu'on va voir une adaptation des communautés locales, indépendamment des groupes mafieux. On va voir des usages différents du mur ou des adaptations au mur. Ce que vous voyez en haut à gauche, à la frontière indo-bangladaise, sont des gens qui utilisent les barbelés pour faire sécher les tissus qui viennent d'être teints. Ce que vous voyez à droite est à Gaza. Donc, les tunnels de Gaza avaient, ils sont restaurés fréquemment, mais avaient des fonctions dissociées. On ne pouvait pas transporter, livrer du Kentucky Fried Chicken, ce qui arrive à travers les tunnels à Gaza, et faire passer les animaux vivants aussi. Donc, il y avait des fonctions dissociées pour les différents tunnels, mais donc, il y a des tunnels. Ce que vous voyez à gauche est à la frontière entre la Cisjordanie et Israël. Et en fait, il y a un trou dans le mur qui permet de livrer le pain tous les matins. Et enfin, à droite, simplement des choses qui se font passer de part et d'autre de la frontière mexicano-américaine. Donc, les communautés locales s'adaptent, mais sont en mode survie parce que, justement, l'économie globale ne fonctionne moins bien. On s'adapte de multiples manières. Ce que vous voyez à droite est donc quelqu'un qui arrive à franchir ce mur immense qu'est le mur à Jérusalem-Est. Et ce que vous voyez à gauche est un de nos collègues, Scott Nicol, qui travaille au Texas et qui recense toutes les échelles qu'il a trouvées au pied du mur, parce que c'est Janet Napolitano qui disait « Trouvez-moi un mur et je vais vous trouver une échelle qui est plus grande ». Et surtout, les stratégies migratoires s'adaptent. Et c'est probablement l'idée la plus importante. Ce qui est complètement fou, c'est d'imaginer ou de sous-estimer le désespoir de ceux qui décident d'entreprendre leur marche. Personne ne va décider de mettre ses enfants sur un petit rafio pour traverser la Méditerranée, sauf si la maison est beaucoup moins sûre, rester à la maison est devenu dangereux. Donc en fait, tout le monde est capable de rationnellement faire un bilan coût-avantage. Et donc si ce choix-là est fait, il va être fait d'une manière ou d'une autre. Alors ce que vous voyez à droite, c'est une des stratégies qui a été adoptée par un temps, notamment par quelques groupes venus de Syrie qui transitaient par le Liban, se rendaient à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Mourmansk, puis dans la ville de Nikel, où quelqu'un les attendait, les conduisait en minibus jusqu'à la frontière, leur donnait un vélo et leur permettait de traverser la frontière sur un vélo vers Kirkenes, en Norvège, donc au nord du cercle arctique. Pourquoi ? Parce que dans la législation norvégienne, si vous traversez en voiture, on peut vous demander votre passeport. Si vous traversez à pied, on peut vous demander votre passeport. Mais pour une raison ou une autre, si vous traversez en vélo, on ne peut pas vous demander vos documents. Donc, vous pouviez vous rendre. Et donc, on peut toujours trouver des failles dans les systèmes. Ce que vous voyez à gauche est beaucoup plus impressionnant dans un sens, même si j'imagine que franchir le cercle arctique en gougoun n'est certainement pas évident. Il y a des gens qui l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas habillés pour. Mais ce sont des gens qui vont choisir de transiter par l'Amérique du Sud pour des raisons de visa et vont remonter vers les États-Unis et le Mexique et les États-Unis en passant par la jungle du Darién que vous voyez en haut à gauche, Martin Movila, qui est un journaliste à Radio-Canada, a très bien documenté dans un documentaire extraordinaire. Et il montre ce que c'est de franchir cette frontière entre du Panama à travers cette jungle qui est une des plus hostiles au monde et qui montre les périls que ça suppose. Les gens racontent quand ils sortent de la jungle du Darién qu'ils ont marché sur des cadavres, qu'ils ont laissé des gens derrière eux. Il y a la présence des cartels d'une part, mais aussi la présence d'un certain nombre d'animaux qu'on ne veut pas rencontrer d'autre part. Et donc, là encore, les migrants sont informés, ils le savent que c'est extrêmement dangereux et ils vont quand même faire ce choix-là. Mais surtout, les trafiquants vont être extraordinairement créatifs. Des tunnels, beaucoup. Il y en avait quelques-uns sous le mur de Berlin. Je pense que 19 étaient véritablement fonctionnels. On en a recensé 230 à la frontière mexicano-américaine. Et les technologies de fracturation hydraulique ont aussi beaucoup aidé dans le forage des tunnels, parce qu'on creuse différemment. On peut creuser plus petit et acheminer notamment des ballots de drogue beaucoup plus aisément. Ceci étant dit, la très grande majorité, 90% de la drogue qui rentre aux États-Unis depuis le Mexique, le fait par les ports d'entrée réguliers. Soit que les agents sont corrompus, soit que la drogue est très bien dissimulée. Donc là encore, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Mais vous allez voir, la créativité des trafiquants peut être beaucoup plus intéressante. C'est une photo qui a été prise par les patrouilles frontalières américaines à Yuma. Ils l'ont postée. Pour eux, c'est une grande victoire d'avoir trouvé cette Jeep-là. Je pense qu'on peut l'interpréter de multiples manières. Mais donc, vous savez, les ponts militaires que l'on peut déployer, qui sont articulés, c'est un peu la même logique. Donc, on déploie une rampe au sommet du mur mexicano-américain qui va permettre de faire passer une voiture chargée jusqu'à la gueule, en l'occurrence de marijuana. Et puis là, la rampe a cassé, donc la Jeep s'est retrouvée coincée sur le sommet. Les trafiquants ont quand même pris le temps de vider la Jeep. Et donc, quand les patrouilles frontalières sont arrivées, c'est ce qu'ils ont pu constater. Dans les artefacts un peu drôles qu'on a trouvés, il y a aussi cette catapulte qui permet donc de catapulter de la drogue d'un bord à l'autre de la frontière. Et le mur de soutènement, ou le pilier de soutènement de la catapulte, c'est le mur. Donc le mur est devenu l'outil utilisé par les trafiquants. Il y a des conséquences à tout ça. Il y a une conséquence qui est assez évidente, qui est la militarisation de la frontière. Pourquoi ? Ben parce que, comme je viens de vous le montrer, le mur tout seul ne fonctionne pas. On le franchit en dessus, au-dessus, au-dessous, autour, par les voies d'entrée régulières. Donc, petit à petit, Foucault nous dirait, je vous l'avais bien dit, il y a une espèce de dispositif politique qui s'articule autour du mur, qui va rajouter en quelque sorte des couches de sécurité, qu'il s'agisse de déployer, comme ici, ce que vous voyez à la frontière à Nogales, des rouleaux de fil barbelé affûtés sur le sommet du mur, de déployer ici la garde nationale, mais des troupes. Donc on va voir toute cette volonté de rendre cette zone beaucoup moins franchissable, mais on va rajouter aussi autour tout ce qui est la politique de visa, la politique de tolérance zéro, etc. Tout ça fait partie en fait d'un même ensemble, d'une même logique. Et ça va assez loin. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est la réalité de ce qui devient de ce qu'est le complexe sécuritaro-industriel. À l'issue de la chute du mur de Berlin, on a beaucoup parlé des dividendes de la paix. On a beaucoup parlé du fait qu'on n'investirait plus dans la guerre, qu'on investirait dans la paix. Imaginez être à la tête d'un de ces grands consortiums militaro-industriels et vous demander ce que vous alliez faire de votre vie. Ben, ils ont trouvé, c'est la sécurité. On vend beaucoup de sécurité et on retrouve les mêmes groupes. On trouve Thales, EADS, Boeing, donc des grands fabricants d'armes qui se sont recyclés sur ce marché-là. Et on a donc, comme vous le voyez en haut à droite, des expositions, des grandes foires de la sécurité frontalière où tous les gens qui innovent, qui créent et qui vendent des armes frontalières ou des mécanismes, des outils vont venir les vanter. Avec donc en haut à droite cette photo d'un mirador israélien qui a un côté très orwellien quand même, et en bas à gauche le fait que alors que l'on militarise de plus en plus, on équipe de plus en plus, et notamment c'est une des conséquences des guerres en Afghanistan et en Irak, les restes, les reliquats d'armes qui n'avaient pas été utilisées ou qui étaient devenues sans utilité première ont été transférés pour certains à des polices universitaires d'ailleurs aux États-Unis, pour d'autres à des polices municipales ou là à la police d'État du Texas qui patrouille le Rio Grande comme si sa vie en dépendait. Et je vous garantis que pour être allé avec mes chercheurs au bord du Rio Grande, on entend beaucoup d'oiseaux. C'est à peu près tout. Et en haut à gauche, c'est comme ce que vous voyez au milieu. C'est des productions qui sont... Les industries israéliennes ont un leadership sur ce marché significatif qui font qu'ils conseillent les Américains, les Indiens et les Saoudiens. Et ce que vous voyez au milieu, donc, c'est une caméra thermique qui est déployée en Arizona et qui permet de voir extrêmement loin. On peut voir à plusieurs kilomètres, 4-5 kilomètres. On peut déterminer la taille de la personne, ce qu'elle porte sur le dos, si elle porte une caméra ou si, à l'épaule, ou si au contraire, elle porte un lance-roquette, si elle porte un sac à dos ou si elle porte un enfant. Donc ça va très loin dans le degré de définition de ces caméras-là. Et ce que vous voyez en haut à gauche est en fait déployé à la frontière de Gaza, et c'est un robot tueur. Donc, un des premiers qui a été testé l'a été à cette frontière-là. Et c'est un élément important, c'est une mutation importante, c'est une innovation importante. Parce que lorsqu'on parle de drone, on a quand même un humain qui est au bout d'une manette et qui prend des décisions ultimement. Lorsqu'on parle d'un robot, c'est un algorithme qui prend la décision et il n'y a pas d'humanité qui intervient à ce moment-là. Sauf à imaginer qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle rentre là-dedans, mais je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Et donc, on voit de plus en plus la frontière comme une zone d'expérimentation militaire, une zone d'expérimentation qui va très loin, donc qui va jusqu'à imaginer ces robots tueurs. La conséquence de ça, c'est la mutation du discours. On est très loin de ce qu'écrivait JFK en 1954 en parlant d'une nation d'immigrants, en disant on peut regarder les choses de manière positive, on peut regarder sans être, et il le dit clairement, on n'est pas obligé d'être l'avocat d'un monde sans frontières, mais on peut regarder l'immigration pour ce qu'elle est, un bénéfice net, comme le prouve un des rapports qui a été soumis à la Maison-Blanche, mais détruit pratiquement immédiatement du département de la santé, des services de santé, qui disait le bénéfice net fiscal, donc je ne parle même pas de revenus, je parle de bénéfice net fiscal qu'apportent les réfugiés aujourd'hui aux États-Unis, est de 26 milliards de dollars. Donc c'est un bénéfice net. Donc, on est très loin de cette vision-là. Et au contraire, petit à petit, on a vu gagner dans les médias tout un discours sur le fait que la frontière était en fait devenue une zone de guerre. Et cette, que ce soit Fox News ou CNN, Fox News parlait de la troisième guerre parce qu'il y avait l'Afghanistan, l'Irak et la frontière. Et puis, on a des télé-réalités de plus en plus sur les questions frontalières. Et là, le National Geographic Channel parlait de guerre de la frontière, de guerre frontalière. Donc, le vocable en soi montre qu'il y a eu un glissement sémantique, une évolution importante dans la perception de ce que représente la frontière. Et on retrouve un peu ce que l'on avait avec le mur de Berlin, franchir ou s'approcher du mur à Berlin-Est ou du côté de Berlin-Est était prendre des risques inconsidérés. On parlait beaucoup de cette violence. Il y avait toute une mise en scène des installations, notamment le sable qui était lissé pour qu'on puisse voir les traces de pas, le mur qui était peint en blanc pour qu'on puisse voir les silhouettes des gens, parce que justement, cette violence-là était omniprésente. Et on retrouve ça alors que les murs sont érigés à d'autres endroits, cette augmentation de la violence. Ce sont deux cartes que vous voyez. En haut à droite, la carte réalisée par Nicolas Lambert et Philippe Rekasevich à partir des données des Nations Unies sur les morts, en fait, aux frontières. Donc, on voit que ça culmine dans le détroit de Gibraltar, à Lampedusa. On ne voit pas les îles Canaries, mais c'est le cas aussi. Et dans la mer Égée, donc le fait d'empêcher le franchissement conduit simplement à plus de morts, amène les gens à trouver des stratégies qui vont être plus dangereuses. C'est aussi le cas ici, dans la carte en bas à gauche, dans le désert d'Arizona, où les portions non murées, en fait, ne sont pas murées parce que c'est du désert. On a présumé que c'était une barrière naturelle. Les géographes vous diraient qu'il n'y a rien, comme rien ne peut être nommé une frontière naturelle. Mais donc, on a présumé que c'est une frontière naturelle, moyennant quoi les gens vont choisir de traverser à travers le désert, dans des conditions où le désert est extrêmement froid, peut devenir extrêmement chaud. Donc, dans des conditions qui les mènent à des morts certaines. Et ces cartes-là sont en open access, en accès libre, pour que les gens puissent voir, avant de partir, ce que peut représenter leur trajectoire. Il y a toute une politique qui est mise en place côté mexicain. Cette violence de cette frontière, une fois que je vous ai montré les chiffres, une fois que je vous ai montré des points sur une carte, c'est aussi une violence qui est très personnelle, qui est très réelle. Ce que vous voyez à gauche, c'est une personne qui s'est retrouvée avec 10 points de suture dans sa main parce qu'en voulant franchir la frontière de Melilla au Maroc, il a mis ses mains sur ses rasoirs parce que ce sont des barbelés, mais ce sont des rasoirs. Et l'objectif est clairement de faire mal et de dissuader. Ce sont les mêmes types de rasoirs qui sont déployés au sommet de la frontière, au sommet du mur à Nogales aujourd'hui. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est Mathilde qui est là, qui a pris la photo. On était à la frontière avec le Rio Grande. Donc, comme je vous le dis, il y a essentiellement des petits oiseaux. Mais de temps en temps, on tombe là-dessus. Et c'est un gilet de sauvetage d'un enfant. On voit que Spider-Man est dessus. Donc, il y a des gens qui ont choisi à cet endroit de franchir le Rio Grande. Et c'est quelque chose, le Rio Grande, pour m'y être baigné en amont. Là où il y avait moins de débit, j'avais déjà trouvé nager à contre-courant était vraiment un exploit. Mais à cet endroit-là, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on voit un certain nombre de morts régulièrement depuis que les gens ont pris cette option-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font le choix de mettre leur enfant dans un petit gilet de sauvetage et d'essayer de franchir la frontière coûte que coûte. Pourquoi ? Parce que la politique américaine aujourd'hui est une politique qui dit aux gens qu'ils doivent attendre côté mexicain le temps que leur demande d'asile soit acheminée et soit étudiée. Et ça peut vouloir dire attendre plusieurs semaines, voire des mois, à Ciudad Juárez, à Matamoros, dans des endroits qui sont extrêmement dangereux. C'est un endroit où je ne voudrais pas être avec mes enfants. À un moment donné, alors que vous savez que le chemin entre l'abri où vous allez résider et le poste frontalier. Donc, ce chemin-là fait à peu près 500 mètres. Qu'avant d'arriver au pont qui va enjamber le Rio Grande, les risques sont élevés. Que les cartels vous arrêtent. Qu'ils vous demandent de l'argent. Qu'ils vous demandent si vous avez le code, disant que vous avez déjà payé l'argent. Qu'ils vous capturent. Qu'ils vous relâchent une fois que la rançon est payée ou pas. Ou qu'ils décident que vous allez devenir, que vous allez passer de la drogue pour eux. Donc, que vous soyez consciente de ce choix-là et que vous décidiez de franchir le Rio Grande à la place, en fait, a beaucoup de bon sens parce que le danger de rester sur terre est beaucoup plus élevé. Et enfin, ce que vous voyez en bas à droite est le travail d'une collègue avec qui on travaille beaucoup, Susan Arbage-Page, qui est professeure en art visuel et photographe à l'Université de Chapel Hill. Et c'est intéressant parce que Susan et nous, on fait un peu le même travail. On collecte les données sur la trajectoire des migrants. On essaye de comprendre quel est l'impact sur le mur sur leur trajectoire. Et elle, en fait, fait la même chose. Nous, on fait des entrevues. Elle va simplement prendre des photos des objets que les gens laissent derrière eux. Et c'est intéressant parce que ça retrace totalement la trajectoire. Lorsque l'on part le matin, dans le désert, il fait vraiment très froid. Donc, on va avoir un gros manteau. Et puis, la température monte extrêmement vite. Donc, le manteau va rester derrière. C'est la première chose qu'on trouve. On va trouver des bouteilles d'eau vide. On va trouver des électrolytes aussi parce qu'évidemment, quand on transpire beaucoup, on devient plus vulnérable. On va trouver des photos de famille, des papiers d'identité, des chaussures de bébé. Puis, elle dit, quand on trouve un sous-vêtement de femme, c'est qu'elle a été agressée. Et les femmes ont 90% de risque de se faire agresser. En fait, c'est pas mal. La question n'est pas si, mais quand. Au point où, sur leur trajectoire, on leur offre, des ONG, des groupes, on leur offre de se faire injecter la pilule ou de prendre une pilule contraceptive tout du long, parce que pour éviter de devoir avoir à gérer de l'autre côté, dans des états où l'avortement est loin d'être une chose facile, d'avoir à gérer les conséquences d'une agression sexuelle. Et c'est vraiment quelque chose qui est tellement omniprésent que dans un certain nombre d'entrevues qu'on a fait, on avait des femmes, on a notamment une femme avec son petit sac, elle avait été arrêtée par le Homeland Security. Elle avait son sac en plastique, ses deux enfants. Il y avait deux toutous, chacun pour chaque enfant dans le sac en plastique. Il y avait trois brosses à dents, trois pulls. Et au bas, parce que le sac était transparent, on avait une boîte de pilules contraceptives entamées. Et cette femme voyageait seule et son mari était mort. Et elle disait qu'elle était seule. Donc, on imagine sans peine les conséquences de ce que ça représentait. Cette violence-là est omniprésente et elle est accrue, elle est accentuée par le mur. Alors, les murs, finalement, servent à quelque chose. Ils ont une fonction symbolique. Et ce que vous voyez là, c'est un mur. Et c'est vraiment tout ce qu'on voit du mur. Un mur dans un champ au Texas. Il y a un bout de mur, littéralement. Donc, c'est plus sur le symbole que l'on va agir. C'est ce qu'on veut aller chercher. C'est un théâtre qui va surligner, en fait, au mieux les grandes fractures du monde. L'image que vous voyez là a été prise par un photographe portugais, si mes souvenirs sont bons. On est à Melilla, dans une enclave espagnole. On est au Maroc. Et les Espagnols de Melilla jouent au golf, pendant que sur la barrière au loin, les migrants d'Afrique subsaharienne qui ont réussi à sauter au sommet espèrent qu'ils vont tomber du bon côté. Et donc, le mur est à la fois cette grande fracture entre le nord et le sud. On parle de grand mur de la civilisation parce que, justement, la mondialisation existe pour nous, mais existe beaucoup moins pour les gens qui sont du sud, qui se retrouvent confrontés à cette grande barrière. Puis, c'est également un mur symbolique parce que c'est une mise en scène, un théâtre qui ne résout rien. Et c'est probablement là où l'administration Trump représente l'exemple le plus concret de ce qui se passe. C'est un peu comme s'il utilisait un marteau, mais que le manche étant trop court, il ne frappe pas sur le bon clou. Et la politique frontalière est souvent utilisée comme une politique de sécurité nationale, comme une politique étrangère, alors que c'est avant tout une politique de police frontalière. Si l'on doit parler de sécurité nationale, si on doit parler de sécurité, dans ce cas-là, le manche du marteau doit être beaucoup plus long. C'est en développement que l'on doit parler, en restauration de la paix, en maintien de la paix, beaucoup plus loin des frontières. Et de plus en plus, alors que les migrations climatiques ne vont faire que prendre de l'ampleur, ça va être d'essayer de permettre à ces gens-là, qui vivent loin, qui ne veulent pas forcément partir de chez eux, leur donner les moyens de pouvoir s'adapter au changement climatique. Et notamment, le déclin du financement d'un certain nombre de programmes dans les montagnes guatémaltèques qui permettaient de sauvegarder les graines d'une récolte sur l'autre. C'était vraiment une contribution scientifique américaine importante. Le fait que ce financement ait disparu font que la conservation des graines est moins importante d'année en année. Ce faisant, les récoltes sont de plus en plus difficiles. Et un jour, ces gens-là qui descendent de montagnes qu'ils n'ont jamais quittées, qui ne parlent ni espagnol ni anglais parce que ce sont des populations autochtones, vont dire « oui, mais il n'y avait plus de pluie, on n'avait plus de graines, on ne pouvait plus manger ». Je vais conclure sur le fait que parfois, On s'imagine que ne plus regarder du côté du sud nous rendrait notre salubrité mentale. Mais il est certain que les murs ont changé notre façon de voir les choses, ont changé les discours et vont très loin dans la perception que l'on a du monde, alors qu'on pourrait vraiment voir les choses différemment sans être l'avocat ni d'un monde emmuré, ni d'un monde sans frontières. Merci.
Vous avez aimé cette conférence d'Élisabeth Vallet? Vous voulez en apprendre davantage sur ses recherches? Consultez le site web de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour participer à nos conférences en personne, bien, suivez-nous! Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre hebdomadaire directement sur notre site Internet. Ce balado a été réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. On se retrouve très bientôt pour un autre balado de la chaire.